Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 MHz. Donc c'est l'émission La Fabrique d'un autre monde possible, tous les deuxièmes lundis du mois, avec Attaque Toulouse, Jean-Michel au micro aujourd'hui, donc en coopération avec Campus FM. Donc Majid à la technique, merci Majid, on intervient sur le sujet de ce soir qui sera les femmes et l'austérité. Donc on va parler de ce sujet pendant une heure entre nous. L'émission est en direct, donc vous pouvez bien sûr intervenir par téléphone, nous poser des questions, demander des éclaircissements, etc. C'est un sujet, vous allez le voir, qui est vaste, hein, assez compliqué, parce qu'évidemment il est transverse à tous les autres sujets dont Attaque s'occupe habituellement, qui sont plus d'ordre économique, sociaux, écologiques, etc. Donc là c'est un sujet particulier, on va en parler, on va voir pourquoi. Avec moi ce soir, nous sommes cinq autour de la table. Donc il y a Anouk, étudiante à côté de moi. Bonjour Anouk.
Bonsoir.
Il y a Laurence également. Bonsoir Laurence.
Bonjour.
Qui fait partie du groupe la Commission Genre d'Attaque Toulouse.
Commission Genre Attaque Toulouse, c'est ça, qui a été créé il y a 2 mois.
Deux mois, donc c'est tout neuf.
C'est tout neuf.
D'accord. Et Claude également, qui fait partie.
Également. Oui, moi aussi.
Et Jean-Louis.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Louis. Alors, donc habituellement, avant de démarrer vraiment le cœur du sujet, on regarde les brèves sur les grands thèmes d'actualité nationale. Il y avait le combat contre l'austérité. Qui se prépare, il y a un rassemblement d'une journée en avril, je crois, à 6 heures contre l'austérité avec CAC 31.
Le 13 avril.
Mais d'actualité très courte, enfin, dans les semaines qui viennent, là, c'est un peu en préparation, disons. Il n'y a pas de gros sujet. Notre-Dame-des-Landes, c'est un peu pareil. Hein, je crois qu'il y a des procès en cours, des appels. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de mouvement important à suivre, d'actualité spécifique sur ce point-là.
Notre-Dame-des-Landes, il y a donc une projection cette semaine à l'Utopia, suivie d'un débat, en fait.
D'accord, tu as la date?
Je crois que c'est le 14 février, ouais.
14 février, ouais. D'accord, c'est jeudi soir.
Jeudi soir, oui.
Ça marche.
Donc, il y aura des gens de la ZAD, donc de la zone occupée, et du coup, il y aura moyen de débattre.
On va l'avoir dans l'agenda, ça. Très bien, merci, Majid.
Avec plaisir.
Le dernier, c'est le débat sur la transition énergétique. Alors, c'est pareil, c'est un sujet qui a démarré en septembre. Il y a eu quelques discussions, il y a une grosse réunion gouvernementale et tout. Depuis, c'est un peu le silence radio à suivre, donc il faut se renseigner. Moi, je n'ai pas tellement d'infos, donc on va travailler ce sujet-là pour les émissions futures. Mais aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose. Alors, les femmes et l'austérité, c'est notre sujet de ce soir. Oui, il y avait un sujet, en effet, qu'on a oublié, qui est la Tunisie quand même. Claude, tu voulais en dire deux mots?
Oui, d'abord pour dire que va se tenir à la fin du mois le Forum social mondial à Tunis, hein, et qu'il va prendre un relief tout à fait particulier compte tenu de ce qu'est la situation aujourd'hui en Tunisie. Moi, je voudrais exprimer toute ma solidarité avec le peuple tunisien qui est en train de se battre toujours pour le triomphe de la révolution, avec une pensée particulière pour les femmes tunisiennes qui ont été à l'avant-garde de des mouvements sociaux et qui sont toujours extrêmement présentes dans la lutte contre l'intégrisme religieux. Voilà, bon, je crois que la mort d'une des figures du mouvement révolutionnaire tunisien a été l'occasion, je crois, d'un sursaut très important qui montre que, contrairement à ce que disaient un peu les gens qui se contentent de réagir de manière très superficielle, eh bien, le peuple tunisien n'a pas dit son dernier mot dans sa lutte pour à la fois la question sociale et pour la défense des libertés.
Du coup, quand même, un grand message de soutien à la femme de Chokri Belaïd. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle prend le relais dans ce conflit, dans cette révolution. Et du coup, merci de rappeler en fait l'importance de cette femme.
Oui, juste une chose qui m'a paru très importante, c'est que justement, la femme du leader qui a été assassiné a demandé à ce que des femmes soient présentes à l'enterrement, ce qui, dans la tradition, n'est pas courant. Et elle a tenu à ce que les femmes soient présentes à l'enterrement de son mari. Et je crois que là, elle envoie un message très, très fort et qu'on ne peut, je crois, que soutenir.
Tout à fait.
Très bien. Alors pour introduire le sujet, la question c'était finalement après les années 70 et les mouvements féministes qui ont un peu révolutionné finalement le cours de la société française, après les figures de la révolution française qu'on connaît aussi avec Louise Michel et d'autres, pourquoi aujourd'hui parler de féminisme? Qu'est-ce que le féminisme en 2013? Est-ce qu'il y a une problématique sociétale spécifique? Ou en sommes nus sur l'égalité des sexes, sur l'égalité homme-femme, au boulot, en famille, etc. Le sujet de l'émission de ce soir, c'est un petit peu tout ça aussi. Pourquoi on se pose ces questions-là? Et pourquoi est-ce qu'à Attaque, on s'est dit, bah oui, il faut monter un groupe aussi bien national, pour parler du problème des femmes, que localement à Toulouse. Et en fait, oui, c'est pas les problèmes, enfin, c'est pas l'actualité qui manque de sujets pour nous éclairer, nous inciter à parler de ça. Je regardais là un petit peu en préparant l'émission, le chiffre de l'ONU est sans appel. Hein, l'ONU vient de faire un rapport. Ils estiment à 1 milliard de femmes dans le monde, une sur trois quasiment, qui a été ou qui sera victime de violences. On parle souvent évidemment des pays islamiques, l'Iran, etc., mais ils sont loin d'avoir l'exclusivité de ces problèmes. Récemment, en Inde, grande démocratie dont on parle, proche de l'Occident, etc., bah, y a une jeune femme qui s'est fait violer par plusieurs hommes dans un bus, je crois. Il y a eu des manifestations importantes là-bas, le monde a réagi, mais en fait, il y a un rapport officiel qui a été fait. Et puis finalement, le gouvernement commence à tasser pas mal de mesures. Je crois qu'il y a des ONG qui sont en train de monter au créneau parce qu'il y a il y a 260 hommes politiques indiens, des hommes politiques de premier plan qui sont accusés ou soupçonnés d'avoir réalisé des violences sur les femmes. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour annuler, pour contrecarrer les lois. C'est des vrais soucis. Berlusconi, c'est pareil, il y avait des élections en Italie. Il était rééligible. Il n'était pas loin d'être élu malgré le fait qu'il ait eu des relations sexuelles avec une mineure. Enfin... Au Maroc, j'ai un dernier point que j'avais noté là, qui était une fonctionnaire violée, et son agresseur vient d'être libéré, et elle emprisonnée, donc il y a des choses incroyables qui se passent, quoi. Bon, puis pour finir sur ce thème-là, sur le pourquoi on doit parler de ça ce soir, et pourquoi on en parle régulièrement maintenant dans Attaque, c'est un sujet spécifique. On va parler de la Grèce un petit peu plus tard dans l'émission, et on se rend compte là-bas, mais pas uniquement là-bas, qu'avec l'austérité, avec les problèmes économiques, les problèmes de difficultés au travail, difficultés sociales, de la famille, etc., eh ben, ça aggrave, il y a une tendance à aggraver la condition des femmes, les conditions des relations des hommes avec les femmes également. Je ne sais pas si vous avez des réactions tout de suite, sinon, Yannouk, tu avais préparé, toi, déjà, pour fixer le contexte, pour savoir exactement de quoi on parle, un petit peu expliquer ce que c'est le féminisme, d'où on vient sur ces thèmes-là, quelles sont les problématiques spécifiques.
C'était plus dans l'introduction, peut-être pas partir tout de suite sur le lien entre féminisme et austérité, mais plus évoquer l'identité sexuée. Donc déjà faire l'opposition, enfin la différence entre l'identité sexuelle qui opposerait les femmes et les hommes à partir des critères biologiques, et l'identité sexuée, c'est-à-dire le sentiment d'appartenir à un sexe ou à un autre, que la biologie distingue, mais aussi que la culture va distinguer. Et cette différence sociale, elle est le fruit d'une socialisation différenciée dès la naissance, voire dès que le bébé est dans... Dès la conception. Et du coup, après, c'est tout ce qu'on connaît. Les processus de socialisation, ça va passer par la dichotomie bleu-rose, par les jouets, soi-disant des jouets plus pour les enfants, pour les garçons, qui vont être des jouets de guerre, d'aventure, de construction, des jouets plus féminins qui vont être réimiter les tâches ménagères, qui vont être l'esthétique aussi, voilà. Or, on a une tendance quand même de plus en plus aux jouets mixtes, c'est-à-dire, il y a par exemple plus en plus de petites filles qui vont jouer avec des jouets dits masculins. Toutefois, on observe que l'inverse est beaucoup moins vrai. Et on verra d'ailleurs que, par exemple, tout ce qui est dans la vie professionnelle, les choses évoluent peut-être plus en faveur des femmes. Par exemple, par contre, dans la sphère domestique, c'est moins vrai. Donc, il y a des sphères où ça évolue et d'autres moins. En tout cas, on a une intériorisation très tôt des rôles sociaux de la part des enfants. Et quand on avait préparé l'émission, ce qui nous avait un peu... amusé entre guillemets, c'était les études qui avaient été faites sur le cerveau. C'est-à-dire, dans la lignée de tous les travaux pseudo-scientifiques pour appuyer les thèses raciales, il y avait eu, dès le 19e siècle, il me semble, des travaux sur le cerveau féminin pour appuyer la thèse que le cerveau féminin aurait moins de capacités qu'un cerveau masculin. Il y a des études qui ont été faites aujourd'hui et qui montrent, certes, qu'il y a des différences, en fait, entre le cerveau féminin et le cerveau masculin. Par exemple, si on fait des tests sur, par exemple, les langages neuropsychologiques, sur les compétences neuropsychologiques de langage, on voit que la partie du cerveau des femmes qui correspond à ces compétences-là est beaucoup plus développée que celui des hommes. Et inversement, la partie qui correspond à tout ce qui est repères spatio-temporels, orientation, chez le cerveau des hommes, c'est beaucoup plus développé. Toutefois, si on fait la même étude sur les cerveaux d'enfants vraiment... Un an, deux, voire je crois que c'est jusqu'à cinq, je ne sais plus exactement, ces différences-là n'existent pas du tout. Mmh. Et du coup, ça prouve bien déjà que 90% en fait, des connexions entre neurones se fait après la naissance et dépend de la socialisation et du parcours, les histoires personnelles de chacun, des interactions avec son environnement socio-culturel.
Et ça se passe aussi à l'école, donc puisqu'il y a des enquêtes qui ont été faites dans les écoles avec des enseignants volontaires, donc sans doute conscients de ces différences, qui eux-mêmes reproduisent, puisqu'ils interrogent davantage les garçons quand il s'agit de mathématiques et quand il s'agit de donner des réponses à des questions où il faut élaborer, réfléchir. Ils interrogent les filles dans d'autres matières davantage. Et s'ils les interrogent dans les matières scientifiques, c'est pour qu'elles répondent à des questions qui sont des leçons. Donc là aussi, il y a une différenciation de la part d'enseignants volontaires.
Oui, moi, je voudrais ajouter que toutes les dernières études qui ont été faites, il y a eu d'ailleurs un livre qui s'appelle « Le cerveau a-t-il un sexe ?» hein, parce que je crois que beaucoup de chercheuses, et de chercheuses en particulier, qui en avaient un peu assez d'entendre ce genre de choses sous couvert scientifique, hein, ont montré tout à fait, elles ont montré deux choses. Elles ont montré que les différences individuelles étaient plus importantes que les différences hommes-femmes, c'est-à-dire que les variations d'un cerveau à un autre sont variables selon les individus, indépendamment du sexe. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que toutes les études qu'on voit aujourd'hui sur la plasticité du cerveau montrent que les connexions qui se font, qui sont en mesure de se faire, elles empruntent des chemins extrêmement variés et elles ne sont pas figées. Par contre, ce qu'on voit très, très, très tôt, hein, et ça, bon, les études de psychologie, une série d'études psychologiques l'ont montré, c'est de voir comment le système de représentation, et en particulier des parents, et ça, dès avant même la naissance, influe énormément sur les représentations qu'ils vont avoir et vont faire destin. Hein, c'est-à-dire que, quelque part, alors que je crois qu'on ne naît pas femme, on le devient, on ne naît pas homme, on le devient également, on pourrait le dire aussi, mais par contre, je crois que les représentations et la manière dont les choses sont pensées, sont portées par l'environnement social vont faire destin très rapidement. Je prends un exemple, la valeur du cri. Par exemple, un bébé crie, c'est très tôt, hein. Ben, un bébé crie, eh bien, si c'est un garçon, le cri va être valorisé comme un signe de puissance. Ah, celui-là, il a de la voix, ça va être un battant. Si c'est une fille, c'est, mais qu'est-ce qu'elle a encore à crier, celle-là, hein? En gros, ben,
c'est une pleureuse. Terre, hein,
c'est une pleureuse, voilà. Deuxième truc, c'est sur la psychomotricité. C'est pareil, c'est-à-dire que on va valoriser très 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 vite, hein, chez les garçons tout ce qui est de l'expression motrice. L'expression motrice, ça fait partie quasiment de qu'est-ce que c'est être un garçon. Et par contre, une fille, on va lui demander de rester sage, etc., etc. Et sur les jouets, ce que tu disais, c'est intéressant de voir que les enfants abandonnent les jouets quand ils ne sont pas investis socialement comme faisant partie de leur... Voilà, c'est très important aussi. Donc, on va peut-être offrir un camion. Les parents les plus hardis, on va dire, vont peut-être offrir un camion à un petit garçon, à une petite fille, mais elle ne va pas forcément y jouer parce qu'elle va très vite comprendre que ce n'est pas pour elle. Et par contre, ce qui reste encore un tabou très important, c'est offrir un poupon à un garçon. Et ça, alors, il y a des variations importantes selon les classes sociales, hein, ça déjà, mais ça encore, hein, offrir un poupon à un garçon, c'est lui dire quoi ? C'est lui dire qu'il va s'occuper de choses dont, a priori, il n'a pas à s'occuper. Et je pense que derrière, il y a aussi la peur que s'il joue à la poupée, qu'est-ce que va être son devenir sexuel ? Je crois que c'est ça qu'il y a derrière.
Ouais, du coup, bien insister, bah, à la limite, l'enfant, enfin, peut-être je suis un peu loin, mais quand il naît, il ne sait pas s'il est une fille ou un garçon, et il apprend forcément de ses parents, son environnement, de tout ce qu'on lui renvoie. Il intériorise très vite pour se confirmer aux normes et pour ne pas être déviant, entre guillemets. Et bon, du coup, ça participe à la construction sociale des rapports de sexe. Et du coup, on voit dans plein de domaines, c'est impossible d'être exhaustive, les discriminations et les inégalités dans le domaine scolaire, ce que tu disais, Laurence, dans le travail, on va un peu le développer. Dans le domaine juridique, les femmes ont été longtemps considérées comme des mineures, en fait. Dans le domaine politique, tout ce qui est le suffrage universel qui a été accordé aux femmes, alors j'aime bien le mot accordé parce que ça sous-entend qu'il aurait été accordé aux femmes par les hommes et du coup qui aboutit aussi à une sous-représentation des femmes dans le domaine politique. J'avais noté un chiffre juste en 2005, seulement 4% des chefs d'État étaient des femmes. Donc ça montre bien que dans nombreux domaines sociaux, il y a cette question-là.
Tu as parlé de la scolarité, c'est vrai que l'histoire est écrite au masculin quand même, de façon principale. Hein. Moi, j'ai appris un mot nouveau ce week-end.
Ah oui, j'allais
dire si vous le connaissez. Sororité.
Oui.
Vous savez ce que c'est, vous?
Oui.
Je ne savais pas. C'est la fraternité au sens féminin entre femmes. C'est un mot qu'on n'utilise jamais.
Non.
Fraternité, c'est au fronton des mairies. C'est utilisé. Enfin, c'est très connu. Tout le monde utilise. Tout le monde sait ce qu'est la fraternité. La sororité, c'est relativement rare quand même.
Tout à fait. Oui.
On entend parler éventuellement, mais.
Et pourtant, elle existe.
Et pourtant, elle existe. Elle existe même beaucoup.
Oui.
On parle des droits de l'homme. Hein. Les droits de l'homme, c'est l'universalité des droits de l'homme. Voilà, homme, ça englobe forcément les femmes.
Mais ça, c'est encore autre chose, parce que dire que, bon, c'est un problème en soi. Mais là, il y a deux mots, et on n'en utilise qu'un. C'est ça qui est dingue.
Parce que l'autre, c'est nous qui l'avons créé.
Oui, je me suis renseignée.
Je crois que c'est vrai, c'est à partir des luttes féministes que s'est créé ce mot-là, parce que je crois qu'on s'est aperçu que le langage n'était pas neutre, et que tous les mots utilisés, c'est pas pour rien, c'est en général des mots masculins. Et donc je crois que quand on a voulu dire quelque chose de la solidarité des femmes entre elles, etc., ben on s'est inventé un mot et ça a été sororité. Il n'est pas super utilisé quand même dans le langage courant. Hein.
Voilà. Même chez les féministes, il n'est pas très utilisé.
Vous parlez de fraternité, du coup.
On évite solidarité des femmes.
Solidarité des femmes.
Oui, c'est ça.
Toujours pour rester dans le langage aussi, il y a la problématique du genre, en fait, lorsque le singulier l'emporte sur le féminin. Ouais. Encore aujourd'hui, en fait, on n'a pas résolu ce problème de langage, comme vous soulignez si bien. Et forcément, du coup, on détermine tout un pan comme ça de la société à partir du moment où c'est le langage qui se met du côté du masculin et non du féminin.
Mais ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire. Le masculin, en grammaire, le masculin ne l'a pas toujours emporté. Ça a été un moment codifié par l'Académie française. Il y a un moment, il y avait une règle de proximité qui fait que c'était le nom le plus près de l'adjectif qui prenait l'accord, en fait. Donc, ça pouvait être féminin. Ou c'était aussi le nombre. S'il y avait plus de noms féminins, eh ben, ça s'accordait au féminin. Mais ça a été codifié il n'y a pas si longtemps que ça, je ne me rappelle plus la date, mais c'est le masculin qui l'emporte. Puis ça veut dire beaucoup de choses quand même derrière. Hein.
Alors un autre, le féminisme n'est pas mort.
Oui, voilà. Juste comme tu l'avais évoqué en introduction, le combat, on a l'image du combat féministe des années 70, et c'est vrai que ce combat-là, ça marque vraiment une rupture, parce que c'est vrai, on a l'image d'un féminisme, mais il y a plutôt des féminismes, et ce féminisme-là, c'est plus seulement de revendiquer l'égalité des droits, mais de montrer qu'il y avait une réelle, des réels mécanismes d'oppression de la femme et qu'il s'agissait de vraiment combattre la société patriarcale dans son ensemble, essayer de remonter justement aux origines de ces mécanismes pour voir d'où ça venait. Et non, effectivement, le féminisme n'est pas mort si on en croit aux nombreux sujets d'actualité qui nous ramènent à ça. J'avais noté l'écart des salaires entre hommes et femmes, plus de 20%. Les femmes consacrent 3h50 par jour aux tâches domestiques contre seulement 2 heures pour les hommes. Elles représentent la large majorité des victimes des violences conjugales. Elles sont le plus touchées par le chômage et la précarité, comme on va le voir. Et justement, se concentrer sur la crise, ça met un coup de projecteur sur ces inégalités-là, parce qu'en plus, cette crise et l'austérité qui l'accompagne, ça les a accentuées. Du coup, vraiment, c'est très utile d'avoir une lecture genrée de la crise, parce que ça manque encore à beaucoup d'analyses.
J'ai une question. Je la pose ou on fait une pause musicale?
Vas-y, pose ta question.
Je la pose ou on fait une pause?
On fera la pause après.
Je la pose ou on fait une pause? Le thème de l'austérité, est-ce qu'il n'est pas, comment dire, est-ce qu'il n'y a pas un focus en fait sur la problématique de l'austérité, ou plutôt de comment dire, est-ce que l'austérité va pas prouver un peu plus les problématiques liées aux femmes à travers le monde? Est-ce que ça va pas mettre en lumière justement, voilà,
ce que c'est, tout à fait ça.
Oui.
Tout à fait.
Donc c'est pour ça que vous avez décidé de faire cette émission autour du féminisme et de l'austérité.
C'est ça.
Voilà, vous avez commencé par là.
Bravo, mais... on est prêt pour la pause musicale.
Là, on comprend. Alors. Ok, alors on va faire une pause musicale avec la chorale, c'est ça, hein?
Allez.
La chorale. Donc, du collectif des droits des femmes. Donc,
de Toulouse.
De Toulouse, c'est local. On revient tout de suite après ça.
MLF, année 70. C'est sur une musique composée par des déportés, le chant des marées, l'hymne du mouvement de libération des femmes, hier et aujourd'hui.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le
sur les ondes de 94 Campus FM. On vient donc d'écouter la chorale du collectif des droits des femmes, pardon, de Toulouse, pour être précis.
C'est ça. Et c'était l'hymne.
L'hymne
des femmes.
De MNL. Ouais,
okay. Voilà. Alors, dans la continuité de notre émission de ce soir sur les femmes et l'austérité, donc on a abordé un petit peu les fondements de ce qu'est le féminisme, la problématique du genre, homme-femme, dans les relations travail, famille, etc. On va approfondir le sujet du travail particulièrement maintenant, parce qu'on pense qu'avec les aspects de la crise qu'on vit aujourd'hui en Europe notamment, et de ses impacts sur les femmes en particulier, mais sur l'ensemble de la population, mais à travers les femmes, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est elles qui en subissent la grande partie des effets. Moi, j'ai noté quelques petites choses. Il y a le ministère du Travail qui vient de publier un rapport daté du 23 janvier. Le temps partiel choisi ou subi, En 2011, il y avait 18,7% des salariés qui travaillaient en temps partiel. Ça fait 4 millions de, un peu plus de 4 millions de personnes. 8 sur 10 sont des femmes.
Oui.
8 sur 10 sont des femmes et 9 sur 10 travaillent dans le tertiaire, donc de nettoyage en entreprise, hébergement, restauration, etc., etc. En moyenne, c'est un travail de 23 heures par semaine, probablement insuffisant pour vivre. Voilà, ça résume beaucoup de choses.
Et ça fait partie de ce temps partiel fait partie des inégalités salariales. Alors tout à l'heure, Anouk disait que c'était 20% de différence de salaire entre les femmes
minimum,
et les hommes.
Ça varie selon les filles.
C'est 20%.
C'est pour prendre la fourchette basse.
C'est 20% pour un temps de travail égal. Quand on prend en compte le temps partiel, c'est 37%. Donc c'est énorme. Hein. Donc dans ces 37%, il y a effectivement le temps partiel. Alors qui peut être imposé, hein, donc dans ce qu'a dit Jean-Michel, mais qu'on dit choisi, alors choisi entre guillemets, choisi par les femmes parce qu'elles ont tellement de tâches ménagères à faire encore, hein, puisqu'elles effectuent 80% encore aujourd'hui des tâches ménagères à la maison, qu'elles doivent également s'occuper des enfants, qu'elles doivent s'occuper de leur famille, des personnes dépendantes, des personnes malades, bien souvent elles n'ont pas le choix. D'autant plus qu'on va le voir avec la crise, la fermeture des services publics, la non prise en charge de ces personnes fait qu'effectivement elles sont obligées de les prendre en charge elles-mêmes. Voilà. Après, dans ces bas salaires, dans cette différence de salaire, il y a aussi que les femmes occupent les plus bas niveaux de qualification. Hein. Elles sont deux fois plus au SMIC que les hommes, donc ce qui est énorme. Et on aurait pu attendre d'ailleurs d'un gouvernement socialiste qui revalorise le SMIC. C'était une mesure sociale et c'était aussi une mesure féministe, car elle aurait permis de réduire l'écart des salaires entre les hommes et les femmes. Voilà. Claude, tu voulais...
Ce que je voulais dire, c'est que il n'y a que pour les femmes qu'on se pose la question dans le travail de devoir concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Et ça, c'est déjà la première inégalité. Parce qu'on dit les femmes, elles choisissent le temps partiel. Bon, tu as déjà expliqué que ce n'était pas le cas. Mais en plus, c'est parce que la société a en tête que les femmes doivent assumer un travail gratuit, ça le font depuis très très longtemps, qui sont toutes les tâches familiales, et après ils ont une activité professionnelle en plus. Il faut qu'elle la concilie. Est-ce qu'on se pose la question de la conciliation de la vie familiale et professionnelle pour un homme? Jamais, jamais, ça va de soi qu'un homme va travailler. Ben, s'il a un peu de temps après, s'il lui en reste un peu, il va peut-être s'occuper des... Voilà. Mais c'est comme ça que ça se pose dans la société. Donc du coup, moi, je crois que les femmes sont obligées au temps partiel parce que sinon, elles craqueraient. Elle craquerait parce que, voilà, bon. Et en même temps, il faut aussi se rendre compte que le temps partiel, globalement, hein, les salaires au temps partiel, c'est autour de 800 euros. Qui peut vivre avec 800 euros par mois aujourd'hui? Personne. Pas plus une femme qu'un homme. Surtout que, en plus, il faut savoir que les femmes sont souvent, les femmes salariées sont en position de chef de famille. Hein, je n'ai plus le pourcentage, mais c'est un pourcentage extrêmement élevé des familles monoparentales.
C'est 80%, autour de 80%.
Voilà. Et donc je crois que le temps partiel, c'est le chômage féminin déguisé. Hein, c'est peut-être brutal de le dire comme ça, mais je crois que ça correspond tout à fait à la réalité. Et donc, ce n'est pas comptabilisé d'ailleurs comme du chômage. Hein. Mais par contre, on sait d'après toutes les statistiques que le nombre de femmes qui sont à temps partiel et qui souhaiteraient augmenter leur temps de travail est de plus de 80%.
Aïe.
Ça grince chez Campus.
Oui, ça manque d'huile.
Ouais, ouais.
Après, ce qu'on peut aussi ajouter sur cet écart de salaire et sur les bas salaires des femmes, c'est qu'elles travaillent souvent dans des secteurs dits féminins, donc le soin, l'aide aux personnes, dans la grande distribution, qui sont les emplois les moins rémunérés dans la société, hein, qui sont un espèce de prolongement des tâches familiales. Hein, voilà, prendre soin des personnes, s'occuper des personnes âgées, c'est déjà ce qu'elles font dans la sphère familiale. Et comme elles ont les compétences et que c'est naturel pour elles, il n'y a pas de raison que ça se paye beaucoup quand même. Voilà.
Ouais. Est-ce que l'aspect des politiques d'austérité qu'on voit en Europe se déployer a probablement un effet là-dessus en plus? C'est-à-dire qu'on va peut-être d'abord impacter les services publics, impacter les services à la personne, impacter l'aide aux enfants, aux personnes âgées, etc. Et du coup, c'est les travaux que font les femmes.
Tout à fait.
Il y a un espèce de double effet là, la crise qui revient par-dessus le reste. Et les politiques d'austérité qui sont mises en œuvre aujourd'hui.
Oui, par exemple, il y a des classes de maternelle qui ferment pour les enfants de 3-6 ans. Et on entend parler par ailleurs de jardins d'enfants, hein, un peu comme en Allemagne, qui sont, eux, payants. Donc, effectivement, alors en Allemagne, les femmes, elles ont le choix soit entre avoir des enfants ou soit travailler, parce qu'il n'y a pas le choix, il n'y a pas de moyenne garde. Et d'ailleurs, il y a une baisse de population en Allemagne. Hein. Et en France, on en arrive à ça également. Mmh. Hein. On entend parler de plus en plus d'enfants, de jardins, d'enfants. Et il manquerait, alors ça, à peu près tout le monde s'accorde, il manquerait quand même 300 à 400 000 places pour les enfants. En dessous de 3 ans, ce qui est énorme quand même. Hein. Donc effectivement, quand il n'y a pas de place de garde, on ne va pas travailler. Voilà, tout simplement.
Et pour en revenir, en fait, justement, ce que tu disais, que la crise et l'austérité accentuent ces inégalités-là, il y a le document de Christiane Marty, qui est du Conseil scientifique d'Attac, qui montre bien qu'il y a une première vague qui va toucher plus les hommes, c'est-à-dire que c'est là qu'on va voir le chômage des hommes va augmenter, parce que c'est lié à la restructuration de la production. Voilà. Mais par contre, on a une deuxième vague, à partir de 2011, où on voit que là, le chômage des femmes augmente parce que c'est tout ce qui est lié à l'austérité, aux politiques d'austérité, au démantèlement de l'État-providence. Mmh. Et j'avais relevé des chiffres juste sur le chômage catégorie A, donc c'est sans prendre le temps partiel. Le chômage des hommes augmente de 0,9% et celui des femmes de 5,4%. Et si on prend les catégories A, B, C, cumulé, c'est une augmentation de 2,7 pour les hommes et 6,4 pour les femmes. Donc c'est quand même assez flagrant.
Oui, par exemple, il y a aussi quelque chose qui me paraît moi très important, c'est qu'on a constaté là tout à fait récemment que pour les jeunes femmes de moins de 24 ans, le premier emploi qui leur est proposé, et quel que soit le niveau de qualification, et même plus le niveau de qualification est élevé, plus ça se produit, on propose du temps partiel. Ce qui fait que le temps partiel chez les jeunes de moins de 24 ans, c'est leur voie d'entrée dans l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que c'est la voie d'entrée dans l'emploi. Alors, pour les jeunes de manière générale, mais pour les jeunes femmes. Et ça n'a rien à voir, parce qu'avant, c'était pour dire concilier tâches familiales et tâches professionnelles. De manière générale, les filles de moins de 24 ans, elles n'ont pas à concilier tâches familiales et tâches professionnelles. C'est la structure même de l'emploi proposé qui se fait de manière différenciée selon qu'on est un homme ou une femme dans la société aujourd'hui. Et je crois que la dernière loi là, qui vient d'être passée, signé par la CFDT
l'accord
sur la compétitivité. Le ministère des droits des femmes n'a pas jugé bon d'en dire grand-chose. Il a bien tort parce que sur le temps partiel, il va y avoir une aggravation par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en gros, pas proposer de temps partiel au-dessous de 24 heures, sauf dérogation. Alors bon, les dérogations, alors on voit déjà ça.
Hein, les dérogations, c'est dans les services à la personne.
C'est dans les services à la personne.
Là, bon, voilà. Là où il y a quand même des étendues, des plages horaires les plus larges dans la journée.
Tout à fait.
Et là où il y a quand même des...
Des salaires de misère.
Des salaires de misère.
Donc je crois qu'effectivement, la crise va servir, je crois, à accentuer encore tout ce qui était déjà inégalité dans l'accès à l'emploi entre les hommes et les femmes. Bon, et au niveau du type d'emploi, mais aussi au niveau des salaires, bien entendu. Voilà. Et sur le type d'emploi, je trouve que c'est très intéressant de voir que il y a des choses qui ont évolué. Hein. Il ne faut pas non plus dire que c'est la même chose qu'au début du siècle. Par exemple, il y a de plus en plus de femmes qui peuvent avoir des positions d'encadrement. Hein, ça a augmenté de façon considérable. Je crois qu'aujourd'hui, des femmes cadres, il y en a un peu plus de 35%, ce qui n'était pas le cas il y a même 15 ans en arrière. Mais par contre, le type d'emploi reste toujours très sexué. Mmh. C'est-à-dire que quand même, on trouve les femmes dans toutes les choses qui sont le prolongement des tâches qui étaient remplies préalablement dans le cadre familial. Alors, dans l'industrie, ça a été le textile, hein, comme par hasard, hein, le textile, la chaussure, toute la mécanique de précision aussi, parce que les femmes, c'est bien connu, elles sont très, très habiles de leur même pour les petites tâches, puisqu'elles savaient coudre. Bon, et après, il y a tout ce qui est lié au métier d'éducation, au métier de la santé. Et là encore, bon, on le verra sûrement par la suite, mais toutes les coupes sombres dans ces budgets, elles vont avoir une incidence énorme sur l'emploi des femmes.
J'ai une question. Le gouvernement...
Encore une fois, je voulais quand même signaler une chose à propos du temps partiel, en effet, que c'est quand même, une fois de plus encore, le Parti Socialiste, je note, qui va dans ce sens, une fois de plus, je dis bien, parce qu'on l'a déjà vu à l'œuvre dans les années 90, comme étant le quand même, a priori, prétendument une politique de gauche, qui ne vise qu'à précariser l'emploi au travers d'un certain nombre de mesures concernant les jeunes en particulier, effectivement, pour proposer du temps partiel, mais évidemment qui concerne en premier lieu, bien entendu, comme on vient de le dire, les femmes, en l'occurrence, c'est que le contrat à durée indéterminée devient effectivement maintenant un ennemi aussi bien des chefs d'entreprise que, il faut bien le constater, que du Parti Socialiste.
Oui, en fait, le gouvernement, à sa création, a voulu lancer un message fort en mettant en place une parité absolue, notamment au niveau des ministères. Et la question, c'était est-ce qu'au niveau de la fonction publique, le gouvernement, l'État, donne l'exemple en instaurant justement...
J'ai un chiffre.
C'est comme l'écologie, quoi. Au bout d'un moment, est-ce que l'État est exemple, quoi?
Ah ben, il ne donne pas du tout l'exemple, puisqu'il y a... 12% de femmes dans la haute fonction publique, alors qu'elles sont 56% dans la fonction publique en général.
Donc, voilà. Et déjà, à ce niveau-là, il y a du travail.
Voilà. Donc,
sans jeu de mots.
Voilà. Oui, il y a du travail, tout à fait.
En effet. On avait un sujet sur les retraites également. On enchaîne peut-être.
Peut-être dire un mot sur la santé aussi, non? Avant, ou je ne sais pas.
Vas-y.
Sur l'austérité et la santé des femmes, oui Claude, oui.
Ben, oui, on a on constate vraiment des reculs relativement importants. Alors pour prendre l'exemple de la France, entre 2000 et 2009, il y a eu 187 centres IVG fermés en France. Il y a 114 maternités de proximité. Enfin, on pourrait encore détailler l'aide aux associations. Par exemple, le planning familial ferme des antennes par manque de subventions. Dans l'Aveyron, on a vu des camarades de l'Aveyron l'autre jour qui nous disaient qu'ils avaient deux antennes, ils n'en auront plus qu'une. Il y a des associations d'aide aux victimes, des femmes victimes de violences qui ferment. Il y a menacé de fermeture. C'est le cas d'un centre sur Muret. Hein. Mmh. C'est pas si loin que ça. Donc, je crois qu'il y a cette aspect là, et il y a l'aspect que effectivement en Europe on le voit partout en Europe les fermetures les baisses drastiques de financement public jouent sur la santé publique. Alors bon, on parle de l'exemple de la Grèce, mais qui est dramatique puisque là c'est les hôpitaux qui sont en train de fermer. Il y a plus de médicaments, le prix d'un accouchement a doublé, et des femmes les urgences, et des femmes aujourd'hui accouchent dans la rue. On peut parler de l'Espagne, où on est en train d'assister à une privatisation des hôpitaux. Et on pouvait attendre d'un gouvernement socialiste qu'il peut-être au moins...
cesse. La casse des services publics, eh bien, force est de constater aujourd'hui que les budgets hospitaliers ne sont pas en augmentation, et même que toutes les lois mises en place sous Bachelot qui aboutissaient à une destruction du service public, elles sont toujours en place. Alors là, les femmes, elles sont doublement victimes. Elles sont doublement victimes en tant qu'usagères, parce qu'il faut aller très loin. Et maintenant, on a quand même une multiplication des drames humains liés à la question des accouchements. Et ça va. Alors, je ne veux pas jouer les Cassandres, mais si la politique ne change pas, ça va s'accentuer. Ça va s'accentuer. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les lits soient rentables, donc qu'ils soient toujours occupés. Ce qui veut dire que quelqu'un qui vient, ben, s'il peut pas être immédiatement, ben, on le renvoie chez lui, parce que sinon, ça fait baisser la moyenne. Bon, y a ça, et c'est en tant qu'usagère, mais en tant que aussi, c'est les femmes qui sont majoritaires dans les services publics de santé. Et aujourd'hui, les suppressions d'emplois vont les toucher de plein fouet. C'est-à-dire que déjà, il y a des licenciements dans des pays européens, dans des pays européens, et en France, il n'y a pas de licenciement pour l'instant, mais par contre, il y a une augmentation de la précarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, on embauche du personnel sur des contrats à durée déterminée, parce que comme ça, ils peuvent être licenciés entre guillemets, hein, c'est pas un vrai licenciement bien évidemment, mais c'est une rupture de contrat. Donc je crois que là il y a une aggravation de la condition des femmes dans la santé en Europe, mais même en France, hein. Et les amis grecs qu'on a vus nous disaient, mais si vous faites pas attention, notre présent c'est votre avenir. Et je crois que force est de constater que si on ne se bouge pas, ça risque d'être notre avenir et qu'il est sombre.
On fait une pause musicale, rapide, très Allez. Rapide. Le titre, c'est Woman of the Ghetto. En fait, c'est Marlène Achaud qui rappelait déjà à l'époque que eh bien, c'est elle qui donc élève les enfants dans le ghetto avec ce qu'elle peut, avec les moyens. Et surtout, c'est un long pamphlet, en musique bien sûr, sur la condition de la femme, notamment donc dans le ghetto. On vient tout de suite après ça.
Thank you. me in the mind of coming across the water in a boat. Chained, tied together. They said, no, no, they're really not men and women. Just chain them up, tie them up, chain them up, tie them up, chain them up, tie them up. Work, work, work. That's where the movement came from. Say,
voilà donc en direct Marlène Achaud qui rappelait en fait que la condition en fait de la femme dans le ghetto est très difficile, surtout lorsqu'il s'agit d'élever des enfants avec si peu. Et notamment en fait dans les objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU, on se rappelle déjà en fait que parmi les 10 propositions, il y avait celle de l'accès à la santé, à l'éducation pour toutes les femmes à travers le monde. Il y a du chemin.
Voilà, vous l'avez compris, c'est une émission ce soir sur les femmes, hein, dans la fabrique avec Attaque Toulouse, en coopération avec Campus FM. Et le sujet de l'émission, c'est les femmes et l'austérité. Donc, on a parlé du travail des femmes, de la santé des femmes associée aux problèmes générés par l'austérité en Europe. Anouk, toi, je te rappelle
juste pour, conclure sur le lien entre austérité femmes et services publics, par rapport à ce que tu disais, Claude, le fait que les femmes sont doublement pénalisées parce qu'elles sont les principales usagers des services publics, parce qu'elles sont aussi les principales salariées de ces services publics, et je dirais même qu'elles sont triplement pénalisées parce que du coup, comme on démantèle l'État-providence, elles se retrouvent à prendre en charge tout ce qui est aide à la personne, petite enfance, dans la sphère domestique, et elles deviennent le substitut de l'État-providence qu'on a démantelé, et ça rejoint le travail invisible et gratuit qu'on assigne naturellement avec des gros guillemets aux femmes. Et du coup, là, on va plus parler des retraites aussi, qui est un grand
après le travail, un grand sujet. Parce qu'en fait, le décalage qu'on a vu sur le travail, il se prolonge finalement.
C'est ça. Voilà. Ouais. Effectivement, les retraites, c'est le reflet des inégalités entre hommes et femmes. Hein. Donc, il y a les pensions de retraite des femmes sont inférieures de 40% à celles des hommes, hein, ce qui est énorme. Ben pourquoi ? Parce qu'elles ont des salaires moindres, elles sont le plus souvent à temps partiel, elles ont une discontinuité dans l'emploi, hein, du fait des prises en charge des enfants et des personnes dépendantes. Ce qui fait qu'elles, il y a une durée montante de salaire moindre, et ben elles ont des cotisations, elles ont des pensions de retraite moindres. C'est pourquoi on les a vues en première ligne, hein, pendant les mouvements contre les contre-réformes des retraites. Elles étaient en première ligne parce qu'effectivement elles étaient les plus touchées par ces contre-réformes. Alors là, on n'a pas trop le temps de développer, mais ces contre-réformes, elles ont aggravé quand même les retraites des femmes. Christiane Marty d'Attaque a beaucoup développé et beaucoup écrit cette question. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, ben nous les invitons à aller voir ces écrits-là, parce qu'on n'a pas le temps là. Voilà.
Sur les services publics, par contre, on en a un petit peu parlé déjà. Hein, qu'en gros, il y a entre 300 et 400 000 places d'accueil de jeunes enfants qui manquent, pour les enfants de moins de 3 ans. Des choses comme ça, est-ce qu'il y a des choses qu'on souhaite ajouter à ce qu'on a déjà dit ?
Non, je pense que...
Alors, par contre, ce qu'il ne faut pas... Il y a un gros sujet maintenant qu'on n'a pas abordé encore, c'est le problème des violences faites aux femmes,
oui.
Violences physiques, prostitution, associées à la mondialisation. Donc, c'était avant le problème de l'austérité, c'est le fait de mondialisation des relations économiques. Il y a une mondialisation parallèle, qui est une mondialisation de trafic de la traite des femmes et de la prostitution. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. Mm. Qui souhaite le développer ? C'est toi, Claude.
Oui, bon, d'abord, je crois que il faut remonter un peu avant la crise, enfin, ou plutôt quand la crise atteint les pays dits du tiers-monde, parce que je crois que la globalisation et la mondialisation ont eu des effets sur les pays du Sud, bien avant que la crise n'arrive en Europe. Et à ce moment-là, je crois que sous le double effet des mesures prises par le FMI, d'ajustements structurels, etc. Il y a eu un appauvrissement considérable des pays du Sud qui a entraîné des migrations extrêmement importantes. Et parmi les migrations, le phénomène nouveau, je crois, dans l'étude des migrations, c'est qu'elle touche maintenant, presque pour la moitié, elle touche des femmes, ce qui n'était pas le cas dans les migrations antérieures. Le deuxième aspect de la globalisation, c'est la marchandisation de tout, hein, et y compris la marchandisation du corps. On le voit tout à fait clairement avec, je crois, tout ce qui s'est développé de manière exponentielle, qui est l'industrie, ce qu'on appelle actuellement l'industrie du sexe. Alors, les chiffres, je crois, ils sont assez parlants, hein. C'est que, la prostitution, aujourd'hui, elle atteint une dimension quasiment industrielle et planétaire, et elle est très, très inquiétante. Elle inquiète même le rapport mondial de l'ONU, hein, tous les chiffres que je vais citer, c'est des chiffres officiel du rapport mondial sur l'exploitation sexuelle. Donc en gros, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que aujourd'hui, la traite des femmes, hein, c'est-à-dire, alors qu'est-ce que c'est la traite ? On appelle la traite, c'est comme l'esclavage. Je crois que la prostitution, c'est une forme de l'esclavage moderne. C'est peut-être la violence la plus ultime de celle qui est faite aux femmes. C'est-à-dire qu'on considère que le corps des femmes appartient aux hommes globalement dans une société. Aujourd'hui, donc, il y a 75% des femmes. Alors, il y a la traite, c'est quoi ? C'est 40 à 42 millions de femmes et d'enfants aujourd'hui de par le monde qui sont victimes de la prostitution et des réseaux de proxénétisme. Ça, c'est ça. Bon, 75% de ces femmes, c'est leur entrée dans la prostitution, c'est entre 13 et 25 ans. C'est énorme, hein. Aujourd'hui, en Europe, il y a 1 à 2 millions chaque année de femmes, essentiellement, hein, femmes et enfants, qui sont touchés par le phénomène prostitutionnel. Et je crois que ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des réseaux de prostitution, c'est des réseaux qui sont liés aux mafias, pour 90% des femmes prostituées. Et ça rapporte aujourd'hui les profits annuels, hein, sont estimés à 27,8 milliards de dollars. Il y a 10 ans en arrière, c'était 3 fois moins. Hein. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose qui est toujours en expansion. Le tourisme sexuel, par exemple, c'est le troisième commerce illégal aujourd'hui. C'est des chiffres mal connus, mais qui montrent l'ampleur du phénomène. Et ce qui est, par exemple, il y a des chercheurs, c'est très très difficile de savoir l'argent qui est brassé, parce que par définition, c'est illégal, donc c'est un peu compliqué. Mais d'après les projections qui sont faites à partir des études de l'Organisation internationale du travail, il y a un chercheur qui a beaucoup travaillé sur la prostitution, qui s'appelle Richard Poulain, et sur la mondialisation de la prostitution, il arrive, hein, à partir de ces études-là, à un montant de 100 milliards de dollars, qui serait le chiffre d'affaires, hein, lié à l'industrie du sexe, qui comprend et la prostitution et l'industrie pornographique. Il faut savoir que l'argent de la prostitution, ça représente aujourd'hui 5% du produit intérieur brut des Pays-Bas. C'est dire si ce sont des chiffres astronomiques, hein, astronomiques. Et aujourd'hui, le commerce de la prostitution devient quelque chose qui prend autant d'importance en termes de fric brassé que le commerce des armes et que le commerce de la drogue. Et une arme, ça se vend une fois. Une femme, ça peut se vendre des tas de fois.
Merci Claude, c'est extrêmement important. Ça permet aussi de faire le lien finalement avec les problématiques d'attaque qui étaient la lutte contre les paradis fiscaux, la lutte contre les blanchiments d'argent. Enfin, toutes ces problématiques-là se rejoignent à travers la problématique des femmes et de la traite des femmes notamment. On a vu aussi et de façon plus différente au niveau du travail aussi, mais là, il y a vraiment un aspect mondialisation qui est extrêmement grave et important et qui croît de façon extrêmement importante. Quoi. En quelques années, ça a explosé. C'est quelque chose qui était quand même existant par le passé, mais en quelques années, il y a eu une ampleur incroyable qui a été prise.
Et même là, pour avoir discuté avec des copines grecques et surtout des copines espagnoles, et puis il y a eu un article dans La Dépêche qui le montrait, puisqu'il y a eu deux articles sur la question de la prostitution. Il y a un phénomène aussi qui devient très important, c'est qu'aujourd'hui, la prostitution en temps de crise, je vais le dire brutalement, mais ça peut être une option pour les femmes. C'est-à-dire que quand même, ce qu'on a vu, et ça a été souligné par La Dépêche, c'est qu'il y a aujourd'hui des femmes des pays du sud de l'Europe, hein, des femmes espagnoles, etc., qui aujourd'hui viennent se prostituer, en France. Alors, combien de temps vont-elles échapper au réseau ? Enfin, ce qui était quand même donné comme chiffre, il y a eu aussi le scandale des escortes girls dans les hôtels à Toulouse, toujours La Dépêche, hein, qui montre que, bon, quand même, les réseaux ne sont pas très, très loin, hein, par rapport à ça. Donc, il y a deux types d'arrivées, hein, puisque quand même, soit 70 à 80% de la prostitution en France, ce sont des femmes étrangères, souvent sans papier, qui sont victimes des réseaux. Là, c'est là on ne peut pas parler de liberté de choix, si tant est que ça existe, même pour de vrai. Hein, mais là, c'est vraiment elles sont aux mains des réseaux, et c'est les femmes des pays de l'Est, et les femmes de pays africains, en particulier les Nigérianes, etc. Et aujourd'hui, donc, des femmes des pays pauvres qui sont touchées par les plans d'austérité et qui aujourd'hui ont recours à la prostitution pour survivre. Et je crois que ça, c'est quand même une chose qui doit nous interroger plus particulièrement, parce que je crois qu'il y a la violence, la crise augmente la violence des réactions. On le voit qu'en temps de crise aussi, il y a une augmentation des violences intrafamiliales, mais il y a aujourd'hui la violence ultime qui va être le développement de la prostitution.
Alors, après ces sujets qu'on a approfondis, j'aimerais qu'on parle de qu'est-ce qu'on fait, vis-à-vis du gouvernement, déjà, le gouvernement français, est-ce que ces sujets-là sont audibles auprès des gens du monde du gouvernement ? Qu'est-ce qui est en préparation chez eux en termes de lois, en termes de mesures, je ne sais pas. Au niveau européen, aussi bien au niveau des gouvernants que des mouvements sociaux, est-ce que c'est un sujet, les femmes à l'austérité, qui est un sujet de regroupement, de rassemblement, d'action commune ou pas ? Et à court terme chez nous, à Toulouse, et puis en France, qu'est-ce qu'on prévoit comme type d'action, comme pour changer les choses, enfin pour reprendre un petit peu en main cet avenir, quoi, qui nous échappe un peu quand même.
Oui, ben je vais commencer par la fin. Donc le 8 mars, donc à Toulouse, nous organisons. Quand je dis nous, c'est un collectif d'organisations féministes et de partis politiques, de syndicats, d'associations, dont Attac. Nous organisons une grève des femmes, hein, pour la deuxième année consécutive. Donc ça sera le 8 mars, on n'a pas encore fixé l'heure, et on appelle, ce sera une manifestation mixte, donc on appelle les hommes et les femmes à manifester ensemble contre les inégalités dont sont victimes les femmes, contre l'oppression et contre leur oppression. Et c'est aussi un appel européen, puisqu'il y a des féministes qui se sont réunies à Florence et qui ont appelé à un 8 mars féministe contre l'austérité. Voilà. Après, sur les politiques gouvernementales, il y a beaucoup de déclarations d'intention, mais Enfin, on le voit avec l'accord signé entre le patronat et les syndicats CFDT, CGC, CFTC, quelques syndicats, et qui est repris mot pour mot par le gouvernement pour aller être voté par le Parlement. C'est un accord qui va contre les droits des femmes, notamment sur le temps partiel. Voilà. Donc non, pour l'instant, on n'attend rien du gouvernement. Il n'y a pas de signe.
Oui, même pas symbolique. Ce que je voulais dire, c'est que quand même, il y a des choses qui se sont déjà passées, Hein, et on a eu, on a depuis le mois d'octobre, il y a eu un collectif des féministes contre l'austérité qui a tenté à deux reprises de faire le pont avec les luttes européennes des femmes. Hein, donc on a invité une première fois une catalane qui nous a parlé de l'austérité en Espagne. Et là, le mois dernier, sur les questions de santé, on a eu une camarade grecque qui nous a expliqué tout à fait l'aggravation par les politiques d'austérité du sort des femmes. Donc je crois qu'on est en train d'essayer de relancer des processus de solidarité active des femmes entre elles. Bon, ça a toujours existé, hein. Il y a la marche mondiale des femmes, il y a toujours des choses de solidarité internationale. Mais là, je crois que les femmes ont envie, dans la crise, de faire entendre leur point de vue, parce que je crois qu'une issue à la crise aussi, ça sera peut-être de prendre en compte le point de vue des femmes, c'est-à-dire de comment recréer, je crois, à partir d'une analyse des besoins sociaux. Et là, les femmes, je crois qu'elles ont beaucoup de choses à dire sur la satisfaction des besoins sociaux, pour imaginer une sortie de crise qui ne soit pas reproduire à l'identique les inégalités, mais au contraire, essayer de trouver d'autres solutions.
Parfait, ce sera le mot de la fin. Merci, Claude.
Je vais juste rappeler un livre.
Pour 16 ans.
Qui est sorti et qui était en présentation à Terra Nova cette semaine. C'est le livre de Zahra Ali, qui est doctorante donc, à l'Institut français du Proche-Orient, et qui a écrit un livre sur le féminisme islamique. Voilà, donc deux termes qui ne sont pas antinomiques, qui peuvent très bien être mis côte à côte. Et c'est d'ailleurs le fruit et l'objet d'un livre qui sort aux éditions L'Armatan.
Voilà, je voulais dire une mobilisation, c'est jeudi 14, flash mob au Capitole, c'est à 18h30. 1 billion rising, ça s'appelle, un rassemblement de type flash mob contre les violences faites aux femmes, c'est mondial et c'est à Toulouse aussi, place du Capitole, à ne pas rater. Je voulais remercier Claude, Laurence, Anouk pour avoir préparé cette émission et Jean-Louis également avec moi. Merci à tous.
Ben merci. Hein.
Prochaine émission, c'est le 13 mars. Le sujet à définir, je pense que ce sera probablement le Forum social mondial. On est en train de la préparer. Toujours à 17h, dans un mois précis. Est-ce qu'on a le temps pour quelques agendas locaux ?
Allez, rapidement. Allez,
11 février à 20h à l'Utopia. Il y a un cinéma débat Italie, les années de plomb. Voilà, c'est sur la mafia. Mardi 12 février, donc demain, salle du Sénéchal, vers un troisième mondial industriel critique de la mécroissance et économie de la contribution avec Bernard Stiegler. Donc c'est un philosophe.
Mercredi, il y a aussi dans le cadre de l'Université populaire à Toulouse, pourquoi le marxisme au XXIe siècle ? C'est à 20h30 au local de la FSU. Le 14 février, il y a aussi une conférence débat sur quelle guerre mène la France au Mali, avec quelles conséquences, avec l'association Survie, toujours l'Université populaire de Toulouse et les Amis du monde diplomatique.
D'ailleurs, je rappelle à ce titre en fait, qu'il y aura une émission d'Or et Munitions qui sera dédiée à la guerre au Mali, avec notamment donc, les membres du collectif Survie. Ce sera donc le 23. Lundi 23.
Lundi 23, super.
Lundi 25, pardon.
25, d'accord.
Et juste peut-être aussi le 20 février, toujours dans l'Université populaire de Toulouse, la conférence débat sur qui veut la peau de la recherche publique, qui peut être un thème aussi intéressant.
Ouais. Bon, et tant qu'on y est, alors moi aussi je vais donner quelques dates. Allez. Samedi 23 février, à la salle du Sénéchal, il y aura donc une conférence débat sur la constitution tunisienne et du coup ce qu'elle va donner dans le temps et surtout un retour sur cette révolution qui renaît de ses cendres en fait. Hein. Et voilà, donc c'est le 23 février et c'est à partir de 18h30 à la salle du Sénéchal, près du Capitole.
Très bien.
Voilà.
Bonsoir à tous, vous êtes sur Campus 94, merci de nous avoir suivis pendant une heure. Rendez-vous le 11 mars à 17h précise, comme d'habitude, avec Attaque Toulouse. À bientôt.
Et pour ma part, rendez-vous lundi prochain avec notamment donc les membres de la CIMAD. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à toutes et à tous.
Bonsoir.